BFM Business, midi, l'heure H. Présenté par Edwige Chevrillon.
Bonjour à tous et bienvenue dans l'heure H. On parlera réforme de retraite, budget, avec notamment mon invité, un de ceux qui a été un des syndicalistes qui a été reçu par Emmanuel Macron, Laurent Escure, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, vous êtes secrétaire général de l'INSA et on a appris donc que Philippe Martinez de la CGT finalement sera reçu aujourd'hui même par le président lui aussi. On viendra sur évidemment sur tous ces événements. Je reçois aussi Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA. Elle présente un pacte productif pour 2025 pour l'agriculture française. L'agriculture française, peut-être vous ne savez pas, qui pour la première fois depuis 2018 est devenue importatrice nette au sein de l'Union européenne. C'est du jamais vu. Et puis je recevrai Marc Frappier, il est directeur d'Euraseo Capital. Euraseo qui a investi à peu près la moitié dans le Next 40. Il nous racontera tout ça, mais pour l'instant c'est l'actu avec Thomas Asportas. Bonjour Thomas.
Bonjour Edwige, bonjour à tous. Et Boris Johnson présente aujourd'hui son offre finale pour le Brexit. C'est une offre en forme d'ultimatum puisque Boris Johnson indique qu'il arrêtera les négociations en cas de rejet par les Européens jusqu'à la sortie de la Grande-Bretagne le 31 octobre. Boris Johnson présentera ses propositions tout à l'heure en clôture du congrès du Parti conservateur, mais les grandes lignes ont déjà fuité dans la presse britannique et d'après le Télégraphe, le Premier ministre britannique va proposer que l'Irlande du Nord, puisque vous savez que le nœud du problème c'est le backstop, l'Irlande du Nord donc resterait dans le marché unique européen jusqu'en 2025, tout en restant dans une union douanière avec le Royaume-Uni. C'est ce que la presse baptise le plan deux frontières pour 4 ans. Concrètement, ça veut dire que des contrôles douaniers seraient mis en place entre les deux Irlandes, mais sans le retour d'une frontière physique, et des contrôles réglementaires entreraient en vigueur en mer d'Irlande, qui sépare la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord. Des premières sources européennes ont réagi rapidement à ces fuites, et elles déclarent que ces propositions ne fonctionneront pas et qu'elles présentent des défauts fondamentaux. Sylvie Goulard joue son avenir européen. La candidate de la France pour la prochaine Commission européenne est auditionnée aujourd'hui par les eurodéputés et elle va devoir s'expliquer sur les deux enquêtes qui la visent, l'une pour l'affaire des emplois fictifs du Modem au Parlement européen et l'autre pour son travail de consultante pour un think tank américain alors qu'elle était encore députée européenne. Rien n'est fait donc pour celle qui vise le poste de commissaire au marché intérieur, d'autant plus, vous le savez, que deux autres candidats à la Commission, les candidats de la Roumanie et de la Hongrie, ont été retoqués lundi par les eurodéputés. Dans l'actualité des entreprises, la journée sera décisive aussi pour XL Airways, puisque le tribunal de commerce de Bobigny doit dire aux alentours de 15h s'il prononce une reprise ou une liquidation de la compagnie. XL Airways a besoin de 35 millions d'euros pour mettre en place son plan de redressement et son patron, Laurent Magnin, en appelle désormais au soutien financier de BPI France en réaction, Edwige, aux déclarations de Nicolas Dufour hier matin à votre micro, qui affirmait ne pas avoir été sollicité par XL Airways. Dans l'affaire de l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen, le gouvernement annonce aujourd'hui qu'il va demander des contrôles de sécurité supplémentaires pour les usines Seveso, autrement dit les sites potentiels à risque industriel. 5000 tonnes de produits chimiques ont brûlé dans l'incendie de l'usine Lubrizol. Et puis pour finir, Suez présente sa nouvelle feuille de route. Le nouveau patron Bertrand Camus a déroulé dans la matinée ses objectifs à horizon 2030. Priorité à l'international, le chiffre d'affaires doit passer de 38 à 60%. Priorité aussi aux clients industriels, avec un chiffre d'affaires qui doit passer de 41 à 50% des revenus du groupe. Suez veut désormais moins dépendre des collectivités locales. Le groupe annonce par ailleurs un plan de cession-acquisition de 3 à 4 milliards d'euros. BFM Business, il est midi 3. On file sur les marchés à la mi-journée. Le CAC 40 recule à nouveau nettement. On a beaucoup perdu hier, on perd encore aujourd'hui. On abandonne 1,5% à 5 513 points. L'euro-dollar, quant à lui, recule, mais beaucoup moins. On abandonne 0,17%. 1 euro s'échange pour 1,0914 $.
Merci Thomas. On vous retrouve bien sûr à 12h30 dans un instant. C'est Laurent Escure, secrétaire général de l'UNSA. Est-ce que la réforme des retraites est un peu encalaminée? On voit ça tout de suite.
BFM Business, l'heure H, la question du jour.
Laurent Escure, merci d'être avec nous, donc secrétaire général de l'UNSA. L'UNSA, c'est l'Union des syndicats autonomes, donc vous représentez différentes professions, en l'occurrence la RATP, on y reviendra sur la question de la retraite, et puis là, sur les policiers, parce qu'en ce moment même débute la marche des policiers en colère. Est-ce que ce sont finalement les premières victimes des Gilets jaunes?
Les policiers?
Oui.
Écoutez, je vais aller les rejoindre pour leur apporter le soutien de toute l'UNSA et la sympathie de l'UNSA parce qu'ils font un métier difficile. Depuis le début de l'année, il y a 52 collègues policiers qui ont mis fin à leur jour. Il y a une vraie souffrance au travail, une vraie difficulté. La crise, en effet, sociale de l'an dernier avec les Gilets jaunes a beaucoup usé non seulement les hommes, mais aussi les esprits dans le ministère de l'Intérieur. Et donc, on doit être fier de notre police républicaine, on doit la respecter et je pense que le gouvernement serait bien inspiré d'entendre la colère qui va s'exprimer aujourd'hui. sur l'ensemble des sujets, à la fois les conditions de travail, mais aussi sur le dossier des retraites, on y reviendra, c'est-à-dire que les professions qui ont de la dangerosité doivent être pris en compte dans le futur système qui veut être...
Mais c'est ce qu'a dit, c'est ce qu'a annoncé et mis sur la table le Premier ministre, en l'occurrence, Edouard Philippe, lorsqu'il a présenté le rapport de Levoire, il a dit qu'il y a des professions comme les policiers, effectivement, dont il faudra tenir, et les armées, dont il faudra tenir compte.
Oui, mais il y a beaucoup d'inquiétudes parce que dans cette réforme, et c'est bien normal, chacun regarde ce qu'il peut gagner ou ce qu'il peut perdre, oui. Et ceux qui ont à y perdre, notamment dans les régimes spécifiques, regardent comment ils peuvent préserver, et nous on les aidera à ça, préserver ce qu'ils peuvent appeler un contrat social, préserver des acquis qu'ils ont obtenus. C'est pour ça que nous, à l'UNSA, on est à la table de négociation pour tous les salariés. On demande d'ailleurs que si la réforme a lieu, il y ait une période de transition pour qu'il n'y ait pas de puni de la réforme et que cette période de transition soit longue et qu'elle soit par ailleurs adaptée.
Oui, mais donc a priori vous avez été écouté.
Oui, mais on demande à voir parce que là il y a eu un incident avec la RATP où le haut commissaire et le secrétaire d'État au transport a reçu les syndicats de la RATP et ils n'ont rien trouvé de mieux alors que c'était une première prise de contact que de faire un communiqué qui leur disait finalement tout va bien, vous inquiétez pas, tout ira très bien, Madame la Marquise. Oui. Nous, on ne peut pas accepter ça sur les personnes qui sont inquiètes.
Est-ce qu'il faut pas
devenir...
toujours un peu le sentiment, pardonnez-moi, mais c'est vrai que la RATP ou d'autres services publics qui crient au loup, alors que bon, finalement, ils sont peut-être plus privilégiés par rapport à d'autres.
Non, mais ce qu'il faut reconnaître, c'est les conditions de travail, les conditions d'exercice, les conditions de pénibilité, les difficultés, le stress. Enfin, moi, je suis monté dans un métro à côté d'un conducteur. Et je peux vous dire, quand vous faites plusieurs stations, vous vous demandez à tout moment s'il n'y a pas quelqu'un qui va se jeter sur les voies. Enfin, c'est des conditions de travail, de stress, de produits qu'on peut inhaler qui sont particuliers. C'est des choses qu'il faut prendre en compte.
Laurent Escure, mais normalement, ça doit être pris en compte, mais comme vous dites, il faudra voir in fine. Justement, vous avez été reçu par, ainsi que Laurent Berger de la CFDT, en septembre par le président Emmanuel Macron. Il n'y avait que deux syndicats, donc Philippe Martinez, la CGT, a dénoncé ce fait-là. Et finalement, donc, il est reçu aujourd'hui, je crois, à l'Élysée. Quand vous avez rencontré le président Macron, il vous a dit quoi, justement, pour essayer de vous rassurer, vous, le
patron? Alors, moi, j'ai ni besoin d'être ni séduit, ni rassuré, ni convaincu. Moi, je rencontre le président de la République quand je suis invité à le faire, parce qu'on considère que quand on est un syndicaliste, on doit agir avec tous les interlocuteurs.
Oui, mais j'ai envie de dire, s'il a commencé par vous, c'est peut-être parce qu'il avait un message à vous faire passer.
Alors, peut-être que c'était parce que j'étais le nouveau du secrétaire général de l'UNSA. Je maîtrise pas l'agenda du président de la République. Je suis très content que Philippe Martinez soit reçu. C'est une bonne chose. Ça prouve.
Est-ce qu'il faut que l'ensemble des syndicats soient reçus par les présidents?
Oui, mais je crois que c'est ce qui est prévu. Donc voilà, moi je m'en réjouis. Quand on s'est rencontrés, moi je lui ai fait part des préoccupations de l'UNSA pour que dans ce cycle 2 ou cet acte 2 du quinquennat, il y ait une forme de justice sociale en même temps qu'on se préoccupe de la transition écologique et que sur le dossier des retraites, il fasse très attention parce qu'il y a des endroits où il y a des inquiétudes, voire des colères qui peuvent s'exprimer et que cette réforme, elle est très anxiogène. Donc il faut absolument qu'on ait des garanties qui soient accordées.
Oui. Mais en même temps, Laurent Escure, pardonnez-moi, mais l'anxiogène, c'est anxiogène dès qu'on touche aux retraites, bien sûr, parce qu'on est tous concernés. Et puis, en plus, il y a une prise de conscience à cette rentrée qu'on était tous concernés.
Oui, c'est ce qui est normal, parce que ce projet cherche à... C'est un projet présidentiel. D'ailleurs, le président de la République va lancer le débat citoyen demain. Il en avait parlé dans sa campagne électorale. On n'est pas surpris qu'il arrive sur la table.
Oui, c'est une réforme structurante.
Mais ça concerne, en effet, tous les Français. C'est une chose qui n'est pas arrivée depuis longtemps. C'est-à-dire qu'on a parfois bouger des petites choses dans les retraites. Là, il s'agit de tout bouger. Donc, c'est logique qu'il y ait non seulement de l'inquiétude, mais parfois de la défiance, en se demandant est-ce que les droits que j'ai acquis dans un système, je vais les conserver. Donc, on a demandé que les droits acquis soient conservés. Et on cherche à travailler d'abord pour les spécificités des régimes qui en bénéficient aujourd'hui, mais aussi pour les autres. Les personnes qui ont de la dangerosité ou de la pénibilité, il y en a aussi en dehors des régimes spécifiques. Mm-hmm. Donc il faut qu'on ouvre ces chantiers en parallèle du dossier des retraites.
Oui, mais on a le sentiment que vous avez été écouté, parce qu'on retrouve justement dans les propos des uns et des autres vos préoccupations, Laurent Escure. Demain, vous rencontrez Jean-Paul Delevoye. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Parce que c'est vrai qu'on a un peu le sentiment qu'on met un petit peu la pédale douce sur le calendrier par rapport à cette réforme des retraites.
Alors, moi,
disais juste avant de rentrer en studio, il me dit moi j'ai pas le sentiment, mais
non, parce que on avait compris que il y aurait une phase après la concertation de l'an dernier qui a servi à quelque chose, parce qu'on a obtenu des choses dans les préconisations, pas suffisantes pour l'instant, pour nous pas du tout suffisantes d'ailleurs. Donc il y a un deuxième cycle de négociations. Nous on a demandé à ce que l'avant-projet de loi soit connu au premier trimestre 2020. On a compris que la loi serait votée en juillet, c'est le calendrier qui est prévu. Bon, donc il faut prendre du temps. Je crois que Jean-Paul Delevoye, pour faire les concertations qui sont prévues et qu'on avait demandé, doit faire 300 réunions. Il va falloir que le gouvernement s'équipe de négociateurs, parce qu'il y a des choses à négocier ou à garantir aux différents secteurs qui peuvent être pénalisés, et il faut qu'on ait des personnes en face de nous qui soient au rendez-vous de la discussion. Et pas seulement pour vendre, faire le service après-vente d'une réforme qui serait bouclée d'avance. Oui. Si c'est ça,
on négocie mais je décide. Oui, on négocie mais je décide. En l'occurrence, c'était un petit peu le principe jusqu'à présent. Est-ce que vous pensez qu'on pourra le faire, on va la faire en étape en fait, cette réforme des retraites? Finalement, les régimes les plus simples, les salariés, la mise à niveau notamment pour les femmes, bon, tout ça va se faire dans un premier temps, et puis les autres professions, les régimes spéciaux, ça va se faire dans un deuxième temps.
Ce que j'espère, c'est que les 10 ou 15 premières générations après 2025 soient peu ou pas impactées par la réforme. Ça, ouais. C'est ce qu'on demande nous à l'UNSA, ouais. Parce que c'est des gens qui sont finalement proches de la retraite, qui ont accumulé des droits dans un ancien système, et il ne faut pas que la nouvelle réforme les pénalise. Ensuite, il faut avoir le temps...
Normalement, c'est ceux qui sont nés après 63.
C'est ça, donc moi je plaide pour que jusqu'à la génération 73-78, on ait des garanties et la capacité de choisir. Ça, c'est pour tout le monde, parce que moi, je défends l'ensemble des salariés. Et pour certains spécificités, certains régimes qu'on appelle spéciaux, on demande que la pente soit beaucoup plus douce et que les droits acquis ou le contrat social qui a été passé avec les salariés de ces secteurs soient respectés.
Oui, donc ça, c'est le long cheminement, hein, pour reprendre vers la maison commune, pour reprendre l'expression d'Edouard Philippe.
Je pense qu'on n'a pas le choix. Je pense que c'est un sujet qui porte sur la protection sociale, sur l'avenir de la protection sociale de notre pays, qui doit aussi se préoccuper des futures générations, parce qu'on aura de plus en plus de jeunes qui seront plus tard ce qu'on appelle des polypensionnés, c'est-à-dire qui seront dans plusieurs systèmes. Oui. C'est peut-être l'avantage d'ailleurs d'un système...
D'avoir un seul régime, en tout cas c'est sûr.
Mais
que
pour
c'est...
arriver à satisfaire cette partie des futures générations, il ne faut pas sacrifier celle d'aujourd'hui.
Est-ce que vous pensez, parce que notamment la baseline, pardon de dire ça, cet anglicisme, mais c'est vrai, c'était de dire que personne ne perdra avec cette réforme des retraites. Même au contraire, l'objectif, c'est plutôt d'augmenter. Est-ce que vous pensez que c'est tenable comme objectif?
C'est ce qu'on veut vérifier. Moi, je vois des choses fantaisistes. Certains nous disent, tous seront perdants. D'autres, au contraire, disent, tout ira bien, ne vous inquiétez pas. Certains sont déjà en train, d'ailleurs, il faut se méfier de ça, des forces politiques qui sont en train de se mêler de l'action sociale et qui sont en train d'organiser des mobilisations. Si on politise le débat, je parle bien...
Ça veut dire quoi? Je comprends pas ce que...
J'ai entendu la France Insoumise ce matin se plaindre de la façon dont les gens se mobilisaient ou agissaient du terrain.
Vous leur dites restez à votre place.
Ouais, moi je dis restez à votre place. Ouais. Les salariés savent ce qu'ils ont à faire, à la fois quand ils doivent négocier ou lorsqu'ils doivent créer un rapport de force.
Et il y a les syndicats pour ça.
Et il faut éviter qu'on ait une convergence de lutte politicienne qui nuirait à la qualité du débat et à la qualité du dossier. Parce que derrière, il y a des salariés qui peuvent trinquer, ou au contraire, il y a des salariés qui peuvent gagner un certain nombre de choses par rapport à la situation actuelle. Donc il faut qu'on fasse un débat sérieux sur ce dossier, qu'on prenne le temps de donner les garanties à tous pour qu'on voit en effet qu'il n'y ait pas de perdants. Il y a aussi des propositions fantaisistes, j'en ai entendu, qui disent on va faire une contre-réforme. Je crois que c'était Philippe Martinez, peut-être qu'il a présenté au président de la République ce matin, en promettant d'aligner tout le monde sur le plus haut niveau de protection des différents régimes
actuels. La grande question, c'est qui va payer ça?
C'est simple, ça a été chiffré, c'est très simple, c'est entre 150 et 200 milliards de coûts supplémentaires pour les retraites, sur un budget à peu près de 350 milliards. Donc on voit bien que c'est une idée qui peut séduire quand on la dit vite, mais qui n'est pas tenable. Donc il faut qu'on soit sérieux, parce que nous on demande que le système de répartition soit maintenu. Ça veut dire que c'est les salariés qui payent les retraites de ceux qui sont à la retraite. On ne veut ni de la capitalisation, parce qu'elle serait injuste, ça serait le chacun pour soi, et on ne veut pas non plus de l'étatisation, c'est-à-dire qu'on ait un recours à la fiscalité pour payer les retraites, parce que si c'était ça, et c'est un peu ce que dit M. Martinez, on prend l'argent là où il est. Si on a une fiscalisation de la retraite, ça veut dire que chaque année dans le projet de loi de finances, on pourrait ajuster le niveau des retraites. Et ça, on ne veut pas du tout. Donc, on veut rester sur la répartition.
D'accord. Donc, ça vous démarque. Hein. En l'occurrence, on voit bien les lignes rouges, hein, des uns et des autres. Est-ce que vous êtes un syndicat réformiste?
Alors oui, moi j'ai pas de, je pense pas que c'est un gros mot comme François Omeril.
Voilà, c'est pour ça que je vous pose la question. François Omeril, président de la CFE-CGC, qui était mon invité il y a encore quelques jours, il dit, alors faut dire qu'il a un congrès bientôt, hein, mais il dit c'est un gros mot, le mot réformiste.
Non, mais moi je pense que c'est pas un gros mot. Le mot réformiste s'opposait dans la tradition syndicale au syndicalisme politisé révolutionnaire. Donc si on n'est pas réformiste, ça voudrait dire qu'on voudrait la révolution ou prendre le pouvoir par soi-même. Donc on est réformiste dans ce sens-là. On est réformiste dans l'appellation plus moderne, qui est de dire que on privilégie la négociation et l'efficacité de l'action syndicale au syndicalisme de la posture ou de la politisation. Donc moi, je n'ai pas peur de ce mot. En revanche, je comprends l'ambiguïté du mot. Parce que lorsqu'on dit réformiste, et qu'il y a des réformes qui sont mauvaises, on pourrait dire, mais ça veut dire que vous accompagnez les réformes mauvaises. Donc c'est vrai que je comprends l'ambiguïté du mot, c'est pour ça qu'on pourrait peut-être en trouver un autre. Mais si on prend sa vraie signification, je ne suis pas gêné par le mot.
Ouais. Juste le fait de... Vous pensez que Jean-Paul Delevoye, il a toutes les... Enfin, et le fait d'être nommé ministre, enfin, ou quasi-ministre, ce qui fait que c'est quand même lui qui va vraiment piloter, il a vraiment les moyens de conduire cette réforme.
En tout cas, il connaît bien le dossier, donc c'est plutôt une bonne chose. Je crois qu'il y a de la détermination de la part de l'exécutif pour mettre les moyens à la négociation, donc maintenant, il faut qu'elle aboutisse. C'est-à-dire que dans la première partie du quinquennat, les corps intermédiaires, les syndicats, les partenaires sociaux, les patrons aussi, hein, ont été un peu ignorés. Depuis quelques mois, il semblerait qu'on soit écoutés. Désormais, il faudrait qu'on soit entendu.
Voilà, la progression, les mots, la sémantique syndicale est très importante, vous avez raison de le souligner. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Laurent Escure, donc secrétaire général de l'UNSA. Je recevrai, tiens, du reste à 12h30, Christiane Lambert, elle dirige le principal syndicat agricole, Christiane, la FNSEA. Mais dans un instant, on fait un détour par la tech avec Marc Frappier, qui est le patron de Razéo Capital. Il investit dans la moitié des entreprises du Next 40, il va nous raconter ça. À tout de suite.
BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Notre invité, c'est donc Marc Frappier, le directeur de Razéo Capital. Merci d'être avec nous, Marc Frappier. Si vous êtes là, c'est qu'il se passe pas mal de choses du côté de Razéo. Vous avez des investissements très importants aux États-Unis où vous avez franchi, je crois, le milliard de dollars ou d'euros. Ça fait une petite différence.
Le milliard de dollars.
C'est pas tout à fait le milliard d'euros. Voilà. Voilà. Et puis en plus, donc de nombreux investissements. Et surtout, ce qui a retenu mon intérêt, c'est que vous êtes dans la moitié à peu près, hein, je crois, des entreprises qui font partie de ce fameux Next 40, dont on a beaucoup parlé. C'est des sociétés qui, à votre avis, ont quel avenir en termes de valorisation ?
Alors, l'activité de Razéo, c'est d'investir pas seulement dans les jeunes pousses, mais sur l'ensemble des activités.
Bien sûr, c'est une des principales sociétés d'investissement. C'est 17 milliards.
17 milliards en actifs sous gestion, et c'est une très grande transformation au cours des 10 dernières années. Mmh. Donc, il se trouve qu'aujourd'hui, Razéo accompagne les start-up, les ETI et les grandes entreprises. Cette transformation, un des marqueurs importants, c'est effectivement cette stratégie d'accompagner la start-up à la scale-up. Et c'est un segment de marché qui n'existait pas il y a une dizaine d'années. Le gouvernement et l'annonce du gouvernement il y a une dizaine de jours sur le fléchage de 5 milliards d'euros vers cette activité-là est très importante. Et on est très fiers d'avoir presque la moitié, en l'occurrence, des prochaines grandes entreprises qui ont commencé toutes petites et qu'on a accompagnées progressivement pour en faire des licornes et les entreprises de demain.
Voilà, sur les 20 entreprises dans lesquelles vous avez investi, il y en aura combien qui vont devenir des licornes ou voire des sociétés cotées au CAC 40? Bon, ça n'existe quasiment pas aujourd'hui, donc c'est pour ça que je n'y répète pas jusque-là.
Certaines sont déjà des licornes. On est investisseur dans Doctolib, par exemple.
Oui, voilà. Les mêmes,
Miro, vous connaissez, Back Market, Vestiaire Collective, etc. Deezer. Donc, c'est des sociétés qui sont déjà des sociétés très importantes. Quand on regarde les 10 dernières levées de fonds les plus importantes en France, on en a financé 7 sur 10.
Oui. C'est l'étape d'après.
L'étape d'après, c'est grâce au capital qu'on va leur apporter. La capacité à les développer à l'international, c'est très important, puisqu'en fait, le marché domestique français n'est pas suffisant pour faire des champions, des géants mondiaux. Ce que les Américains et les Chinois ont, c'est un puissant marché domestique. Tout l'enjeu pour ces sociétés françaises aujourd'hui, c'est d'aller à l'international très vite. La plupart de ces entrepreneurs l'ont très bien compris. Et donc, notre rôle, c'est de pouvoir accompagner, d'où nos présences à l'international, ces entreprises en leur fournissant du capital et du temps.
Donc, pour une entreprise qui doit, si elle a envie de devenir une licorne, pour ceux qui vous écoutent, qui ne le sont pas encore, c'est vraiment la présence à l'international qui fait de vous. J'ai un exemple peut-être un peu contradictoire. Blablacar, en fait, est la première des licornes, essentiellement quand même en France.
Oui, mais essentiellement. Et l'enjeu de Blablacar, c'est de continuer à se différencier, d'entrer dans les nouveaux marchés. Donc, le succès n'est pas qu'à l'international. Il doit s'appuyer sur des bases solides, en France notamment, c'est le premier marché. Prenez l'exemple de United Credit, qui est une société qu'on a financée avec les équipes de Razéo Croissance. C'est une société française, mais qui a des très grands succès, en Italie notamment, et qui se développe en Espagne, par exemple.
Ouais. Quels sont les secteurs qui sont les plus porteurs aujourd'hui ? Toujours dans l'excellente, après on élargira. Oui.
Sans surprise, vous allez constater que toutes ces sociétés sont portées par le digital.
Oui.
Le digital, c'est une tendance de fond qui vient percuter.
C'est pour ça que c'est le Next 40, oui.
C'est le Next 40, mais ça vient aussi percuter nos activités traditionnelles. Donc, vous allez systématiquement, aujourd'hui, dans les thèses d'investisseurs, trouver une opportunité de développement à travers le digital. Et ça impacte même le métier du private equity, c'est-à-dire que nos métiers à nous sont impactés aujourd'hui par les nouveaux outils, la capacité à trouver des nouveaux investissements et à accompagner ces entreprises. Je vous donne un exemple. On a une entreprise traditionnelle en Espagne qui fabrique des arômes et des fragrances. On va probablement annoncer des acquisitions en Asie. On a identifié ces opportunités grâce à des outils digitaux. Et donc, ça fait aussi partie de la révolution de notre métier. Donc, tous les segments d'activité sont touchés. Et on a développé en interne, au sein de Razéo, des compétences digitales.
Ouais.
Donc, ce savoir-faire, il est essentiel.
Je veux dire heureusement pour vous, parce que sinon, il faudrait, ça serait inquiétant pour l'avenir de Razéo.
Oui, mais tout le monde ne le fait pas.
Oui.
Et on a annoncé la semaine dernière la mise en place d'un comité digital. Je pense qu'on est le premier investisseur à avoir un comité digital qui va se poser ces questions à la fois où sont les opportunités de marché, quels sont les secteurs d'activité dans lesquels investir, mais aussi ceux qui vont devoir être mis à jour.
Marc Frappier, d'une manière un peu plus large, je recevais hier donc Nicolas Dufourcq, le patron de BPI France. Lui, il dit qu'il passe son temps à aller aux États-Unis, il est allé en Allemagne, je crois, aujourd'hui, pour chercher de l'argent, pour dire aux investisseurs de venir investir dans des fonds en France. Est-ce que vous aussi, vous trouvez qu'en France, il se passe vraiment quelque chose ? Est-ce que vous ressentez que la France devient attractive ?
Alors, la France devient attractive. J'en veux pour preuve que dans les levées de fonds aujourd'hui, Razéo, on l'évoquait tout à l'heure, c'est 17 milliards, c'est 11 milliards d'actifs gérés pour compte de tiers, donc auprès d'investisseurs institutionnels.
Et puis là, vous avez levé
c'est 2 milliards et demi levés l'année dernière. Razéo Capital a levé 700 millions d'euros récemment, et on lève pour cette activité scale-up, donc les entreprises qui vont devenir des licornes, 1 milliard d'euros.
D'accord.
Tout ça, on le trouve exclusivement en France.
Ils viennent d'où ?
Alors, les fonds, ils viennent de trois grandes catégories. Les grands institutionnels
mondiaux,
donc français, mais mondiaux également. Donc, vous allez retrouver les grands fonds de pension, les fonds souverains, les grandes universités et les grandes familles, les assureurs et les banques. Voilà, c'est à peu près ça le paysage des investisseurs. Aujourd'hui, pour Razéo, près de la moitié de nos investisseurs sont aux États-Unis, par exemple. Donc le marché mondial de la levée de fonds est concentré sur les États-Unis et l'Europe.
Vos concurrents, ce sont qui ? Ce sont des Anglo-Saxons, ce sont des Britanniques, ce sont des Américains. C'est qui ? Quand vous êtes face à une grande université, c'est intéressant de voir du reste le rôle de ces grandes universités américaines. Elles hésitent à en mettre un fonds un peu chez Razéo et chez quoi ? Chez un fonds britannique ? C'est quoi vos concurrents ?
C'est des fonds anglo-saxons, en grande majorité, aussi des fonds européens. L'industrie du private equity s'est d'abord développée aux États-Unis, donc vous avez une majorité dans le top 10 mondial. Vous avez 8 Américains aujourd'hui et 2 Européens. L'ambition de Razéo, c'est une société française qui a des succès en Europe aujourd'hui, mais on a une ambition mondiale. Donc l'ambition, c'est de rejoindre ce groupe-là, d'où l'ouverture de notre bureau aux États-Unis. Mais la concurrence concurrence, elle est mondiale sur nos métiers. Mmh. Et il y a une valeur à la taille dans nos métiers pour deux raisons. C'est que le marché du private equity nécessite un accompagnement opérationnel des entreprises. Et ça, il faut des moyens pour ça, des talents humains et des capitaux.
Est-ce qu'il y a un problème de valorisation ? Beaucoup le disent, en tous les cas, que les arbres sont en train de monter jusqu'au ciel. J'ai déjà pris cette expression avec Nicolas Dufourcq, mais c'est vrai qu'on dit qu'il y a des valorisations dans le private equity quand même très élevées.
Alors, depuis 5 ans, les valorisations ont indéniablement monté. Oui, je ne vais pas vous dire le contraire.
Oui, non, mais ça,
c'est l'effet, effectivement, de la baisse des taux. Oui. Maintenant, il n'y a pas de notion absolue de valorisation. Et ça, c'est important de le comprendre.
La valorisation,
elle est relative.
D'accord.
Elle est relative parce qu'elle est fonction du projet de développement de l'entreprise. Ce qu'il faut, c'est du discernement. Et là où on fait la différence entre un bon investisseur et un mauvais investisseur, ça va être effectivement cette capacité de discernement et d'identifier le vrai projet de l'entreprise qui justifie la valorisation. Je vous donne un exemple tout simple. Quand on a investi dans Moncler, c'était en 2011.
Les doudounes, on s'en souvient. Oui, mais ça, c'est l'exemple qu'on cite parce que c'est extraordinaire ce que vous avez fait sur Moncler.
On a considéré qu'on avait assez relativement cher. 10 ans plus tard, on a vendu nos dernières actions de Moncler.
Ouais. Mais vous avez vendu l'entreprise... parce que vous considériez que maintenant Moncler était une valorisation suffisante.
Voilà. Et qu'elle avait fait une grande partie de son travail de repositionnement. Elle a grandi parce qu'elle a su repositionner sa marque et transformer son système
mais
de distribution.
Mais donc, il n'y a pas le risque d'un espèce de coup de tabac sur dans le private equity, comme certains l'annoncent ?
Alors, tout le monde s'inquiète d'un ralentissement. Aujourd'hui, on ne voit pas de signe évident de coup de tabac. Et par définition, le coup de tabac, on le voit rarement venir, pour être totalement honnête.
Tout l'enjeu de
nos métiers d'investisseurs, c'est d'anticiper ces sujets-là. La stratégie de Razéo en général, c'est d'accompagner les entreprises pour les rendre plus fortes et plus solides et résister à ces coups de tabac. Toutes les sociétés dans lesquelles on investit ont l'opportunité, grâce à Razéo, de se développer à l'international. On est présent dans 10 pays dans le monde aujourd'hui, et ça, c'est une force. Ça permet de résister
au cycle économique. Oui, et puis notamment, très intéressant, vous êtes associé avec le fonds souverain chinois, en l'occurrence. Ça, c'est un point très important. La mise initiale, il faut la multiplier par combien pour que ça soit un bon investissement ?
Alors, je peux juste faire un commentaire sur le fonds chinois, parce que c'est important. C'est très emblématique de ce que j'évoquais tout à l'heure sur la résistance au cycle et la thèse
d'investissement. Oui, bien sûr, mais c'est pour ça que je le cite.
Oui, absolument. C'est le bureau en Chine de Razéo, c'est le premier bureau à l'international. Et il est parti d'une conviction très forte qui était de se dire il faut aller chercher la croissance là où elle se trouve. Si on veut rendre nos entreprises plus fortes, et on en revient à la thématique précédente, il faut qu'on soit capable de trouver des gisements de croissance et d'aller accompagner ces entreprises dans les marchés où la croissance se trouve.
Oui.
C'est la logique de l'ouverture en Chine, c'est la logique d'une ouverture au Brésil ou aux États-Unis, et ça a été reconnu effectivement par le CIC qui a souhaité monter un fonds franco-chinois avec Eurazeo comme gérant et qui a reconnu son savoir-faire en Chine.
Et il nous reste 30 secondes, donc ma mise initiale, il faut qu'elle soit multipliée par combien cher Eurazeo pour que ça soit considéré comme un bon investissement ?
Les standards de l'industrie, il n'est pas propre à Eurazeo, c'est que la classe d'actifs du private equity cherche autour de 15% de rendement.
Ouais.
C'est ça les ordres de grandeur.
20%, ce qui veut dire que Neovia, que vous avez vendu en 2019, c'était 20%, c'est ça ?
Neova, c'était 20% par exemple.
15%. 4 fois la mise.
Pardon ?
4 fois la mise initiale.
Ah, pas sur Neovia, sur Asmodée. Asmodée, l'exemple parfait qu'on évoquait tout à l'heure. C'est une petite entreprise qui était focalisée sur la distribution de jeux de société quand on l'a acquise, essentiellement en France. On a fait 22 acquisitions. On a réinvesti aux côtés des dirigeants. La taille de l'entreprise a été multipliée par 5 en l'espace de 4 ans. Elle s'est développée dans toutes les géographies, que ce soit les États-Unis, l'Asie ou l'Europe.
C'est
une très belle histoire et c'est ça qu'on va chercher.
Oui.
Et l'intérêt, la passion de nos métiers, c'est ça, c'est d'accompagner ces projets.
Et en l'occurrence, notamment dans les 40, peut-être d'avoir des tas de petites licornes. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Marc Frappier, donc directeur de Razéo Capital. Dans un instant, on parle d'un autre sujet, bien sûr. C'est Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA, qui est avec nous. On parlera de cet accident à Rouen, les conséquences pour les agriculteurs et puis de son pacte productif. À tout de suite.
BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Notre invité est Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là. Beaucoup d'actualités à voir avec vous, Christiane Lambert. Vous avez votre pacte productif qui est essentiel hein, quand même pour l'agriculture française, enfin le futur de l'agriculture française. Il y a le budget de l'agriculture. On parle beaucoup de la présentation du budget 2020. Mais je voudrais commencer évidemment par les conséquences pour les agriculteurs de cet accident de l'usine Lubrizol près de Rouen. Il y a 20% des terres agricoles dans la région qui sont touchées. Combien d'agriculteurs sont touchés?
C'est 500 agriculteurs qui sont touchés dans le seul département de Seine-Maritime. C'est 1800 au total quand on additionne sur Seine-Maritime, Aisne, Oise, Somme et Nord-Pas-de-Calais. Donc c'est une surface extrêmement importante, c'est beaucoup d'agriculteurs, c'est une zone très dense en agriculteurs, et ce sont des agriculteurs qui sont complètement bloqués dans leur production, leur récolte et leur vente de produits. Donc c'est une très très grosse inquiétude.
Qu'est-ce qui se passe? Oui, parce que 1800, c'est une évaluation il y a quelques jours, peut-être que ça justement, ça c'est...
C'est l'évaluation d'hier soir.
Oui, oui.
Dans la réunion qu'il y a eu justement pour clarifier les choses. Au début, c'était seulement la Seine-Maritime, donc en proximité de la ville de Rouen, et puis le nuage ne s'est pas arrêté à la frontière du département, il s'est prolongé. Et la comptabilité que nous avons fait hier soir, c'est 1800 exploitations touchées. Donc pour les producteurs de lait, c'est un arrêt de la collecte du lait. Les agriculteurs doivent traire leurs vaches matin et soir, mettre le lait dans un tank, puis le détruire. Ils n'ont pas le droit de le livrer. Les analyses sont en cours. Alors c'est vrai aussi pour les producteurs d'œufs, c'est vrai aussi pour les producteurs de légumes, de miel. Et puis toutes les maïs qui sont sur pied, qui ont reçu les suies, ne peuvent pas être récoltés pour faire le fourrage des animaux. Les betteraves non plus ne peuvent pas être récoltées. Donc la vie s'est arrêtée. Toute l'activité agricole est bloquée, figée. Le travail reste pour les agriculteurs, mais ils ne peuvent rien vendre. Donc il y a une très très grosse inquiétude dans ce secteur.
Oui, ils sont vraiment, les agriculteurs sont frappés de
plein fouet. Ils sont victimes d'une pollution externe, mais qui fige leur activité. Donc les analyses doivent arriver demain. Les analyses qui ont été poussées pour voir quels étaient les polluants qui ont été concernés. Il y a énormément de types de produits qui ont brûlé. Ça a dégagé probablement des dioxines. Mais les études nous diront demain quelle est la réalité de ce qu'il y a, de ce qu'il risque d'y avoir dans le produit alimentaire. Bien sûr, la sécurité alimentaire prévaut et les agriculteurs comprennent qu'il faille bloquer leurs produits. Alors, par contre, ils doivent être compensés à l'euro l'euro.
Oui, on va évidemment revenir un peu sur le détail. Il y a 5253 tonnes de produits chimiques, hein, quand même, qui ont été déversés. C'est dire l'ampleur de cette catastrophe. Est-ce qu'il y a un risque d'abattage des bêtes?
Pour l'instant, non. Ce sont les analyses qui vont sortir demain qui le diront. Idem pour le lait qui a été consigné. Il faut d'abord voir quel est le risque. 62 analyses ont été faites, sont en examen. 384 produits de base ont brûlé dans cette usine-là. Donc c'est une pollution majeure. Et qu'est-ce qui est retombé sur les prés, les champs, dans l'alimentation des bovins? Qu'est-ce qu'il y a comme risque de contenir de la dioxine ou autres produits? Tout ceci, nous le saurons demain. Donc nous suivons de très près les analyses qui ont été faites par la direction départementale de la protection des populations, en lien avec la direction générale de l'alimentation. Et moi, je ne me prononce pas sans avis scientifique. C'est demain que nous saurons qu'est-ce qu'il en est réellement du risque de contamination.
On voit bien, parce que du reste, la population ne croit plus les politiques, ne croit plus Édouard Philippe, le Premier ministre, les trois ministres qui ont été sur place, le préfet de police. Vraiment, il y a une sorte de rébellion de l'opinion publique par rapport à ce que disent les officiels. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, notamment par rapport aux produits consommés, si demain on les déclare comme aptes à être consommés, produits agricoles bien sûr, la population va dire non, on ne vous croit pas, on ne croit pas.
Oui, mais moi j'ai entendu ce matin beaucoup de reportages et depuis ces derniers jours aussi en disant on ne croit plus.
Oui.
Bon, je pense qu'il faut être raisonnable et faire confiance aux scientifiques. Après, il y a les militants qui militent, il y a toutes les fake news sur les réseaux sociaux, j'en ai lu beaucoup, c'est du grand n'importe quoi. C'est instrumentaliser un accident comme celui-ci pour brandir des peurs et dire la chimie c'est fini, alors que la chimie est dans nos vies partout, elle est dans votre veste, elle est dans votre bague, elle est dans votre téléphone, elle est sur ce plateau. Il y a des réalités qu'il faut.
Il ne faut peut-être pas qu'elle soit en centre-ville,
Il y a débat par rapport au positionnement de cette usine. La ville s'est rapprochée de l'usine, l'usine était en dehors, ville s'est rapprochée. Ça, c'est la politique urbaine qui est à remettre en question aussi par rapport à des événements comme ceci. Mais par contre, moi, je fais confiance aux agences publiques pour faire les analyses et pour apporter des éléments tangibles. Les toxicologues, c'est leur métier. C'est c'est pas mon métier. Et nous, nous sommes très clairs, nous nous baserons sur le résultat des analyses toxicologiques pour savoir s'il y a ou pas danger. S'il y a danger, bien sûr, les produits ne pourront pas être consommés. S'il n'y a pas danger, les produits seront libérés pour qu'ils puissent être consommés.
Oui, mais est-ce que justement, on va, ça ne va pas créer une suspicion sur ce produit ?
Écoutez, les de la suspicion, il y en a toujours et partout. Elle est toujours entretenue. Il y a des gens dont c'est le métier d'entretenir des peurs. Vous savez, imaginez les producteurs de lait qui traient leurs vaches matin et soir, qui jettent le lait, qui sont obligés de le détruire, qui perdent 1000 euros par jour, et à qui on dit « oui, mais on ne sait pas, peut-être, etc. » Il y a un moment, il faut être pragmatique. Soit c'est blanc, soit c'est noir. S'il n'y a pas de danger, que les analyses le montrent, eh bien, je pense qu'il faudra arriver à dire « il est prouvé qu'il n'y a pas de risque par rapport à ces produits, vous pouvez les consommer en toute sécurité. Oui. » Mais ça, ce sont seulement les autorités scientifiques et biologiques qui pourront nous le dire.
Donc on a compris, beaucoup de vigilance et demain les résultats importants.
Par contre, une incidence économique énorme et des délais très longs. Parce que bien sûr, nous nous retournons vers l'entreprise Lubrizol. Nous souhaitons qu'elle prenne ses responsabilités par rapport aux dégâts et à l'incendie causé. Son assureur dans un premier temps. Mais comme nous savons que ça va être très long parce que ça va être sur procédure, les pertes immédiates des agriculteurs, nous faisons en sorte qu'il y ait des paliers pour avoir des compensations de trésorerie le plus vite possible.
Mais justement, mais ça, le délai de compensation de trésorerie, il faut que ça arrive tout de suite, quoi. Vous avez quoi comme engagement de la part du ministre de l'Agriculture ?
Alors, le ministre de l'Agriculture a dit que les choses seraient réglées sous 10 jours. Je rappelle que les producteurs de lait, ils sont réglés pour leur vente de lait mensuellement. C'est-à-dire que le 3 du mois suivant, ils sont réglés pour le lait vendu. C'est-à-dire que celui qui n'est pas vendu entre le 25 et le 30, eh bien, il sera pas vendu. Si ça dure encore 10 jours, ça va être très, très, très difficile pour eux. En plus, on a une année de sécheresse qui a été compliquée à gérer. Donc, il faut acheter du fourrage pour les animaux. Donc, c'est quand même une accumulation de choses compliquées. Mais nous, on est pragmatiques. Il y a des réunions chaque jour entre nos organisations départementales, la préfecture et la direction départementale des populations. Et les agriculteurs sont des gens pragmatiques, ils ont besoin de réponses concrètes des biologistes et des toxicologues.
D'accord, moi, ça c'est vraiment le truc qui va être pour vous important demain, c'est de voir qu'est-ce qu'on décide.
Alors, bien sûr, pour ces 1800 agriculteurs, c'est être à leur côté pour trouver toutes les solutions palliatives trésorerie dont ils ont besoin.
Est-ce que de ce point de vue-là, on peut dire que le ministère de l'Agriculture est mobilisé pour le coup, pour
vous? Oui, le ministère de l'Agriculture est mobilisé. Alors, il a été mobilisé aussi dès ce week-end, sans apparaître dans tous les médias non plus.
Je crois qu'il y a aussi.
Peut-être pas chez vous, mais il y a eu quelques emballements médiatiques ici ou là. Je vois que beaucoup de radios ont déplacé leur studio pour aller là-bas sur place. Voilà. Nous, on est obligés de gérer une situation compliquée avec des incidences économiques énormes, des agriculteurs qui n'ont pas le moral parce qu'ils sont extrêmement inquiets. Donc, on ne veut pas qu'ils soient jetés de l'huile sur le feu. Quand je vois certains militants écologistes de premier plan aller défiler dans les rues, etc. Oui, c'est vrai qu'il faut avoir toute la vérité. Et là, je suis d'accord. Par contre, instrumentaliser des peurs et en profiter pour dire toutes ces usines-là, on n'en veut plus. Voilà, il faut les positionner là où il le faut. Mais je crois que ces usines-là, elles continueront à exister.
Christian Lambert, moi, il y a un chiffre qui m'a frappé en préparant cette interview, c'est que c'est pour la première fois en 2018, la France comme un grand pays agricole est devenue importatrice nette en Europe. C'est du jamais vu, je crois. Donc, est-ce que ça montre bien la difficulté, la faiblesse aujourd'hui de l'agriculture française?
Ça nous désole et ça fait des années que nous le dénonçons. C'est-à-dire que cette dégringolade des performances de l'agriculture française, ça fait des années que nous alertons nos présidents,
vous
nos premiers ministres.
Vous n'avez pas su vous adapter à ce qui se passe?
Alors, écoutez, ce que j'ai dit hier dans la présentation du pacte productif, c'est notre agriculture brûle et nous regardons ailleurs. Le président de la République a dit, Jacques Chirac avait dit, voilà, notre planète brûle et nous nous regardons ailleurs. C'est exactement ce qui se passe pour l'agriculture. Certains ont pensé, ministre précédent, président précédent, que la France était une bulle et qu'on pouvait en France faire de la montée en gamme, créer des règles énormes en matière sanitaire, environnementale, et que tout ça allait bien se passer. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Nous avons fait cette montée en gamme, nous sommes au top en termes de bien-être animal, de sécurité sanitaire, alimentaire, de respect de l'environnement, mais d'autres pays qui sont plus compétitifs que nous, amènent leurs produits. Je vois les images d'illustration, ce sont des poireaux. C'est dans le domaine des légumes et des fruits où nous avons eu le plus d'augmentation des importations. Deux chiffres. Sur les 10 dernières années, augmentation de 67% de l'importation de fruits, augmentation de 50% de l'importation de légumes. Pourquoi? En fruits et en légumes, le facteur de charge le plus important, c'est le coût de main-d'œuvre. 65 à 70% des dépenses pour produire un kilo de légumes, un kilo de fruits, c'est de la main-d'œuvre. Le fait d'avoir chez nous nous une main-d'œuvre plus chère qu'ailleurs, fait que la production a été délocalisée, oui, vous... elle est partie ailleurs.
Oui, ou alors à ce moment-là, vous faites comme les vendanges, on est en pleine période des vendanges, vous faites appel à des sociétés extérieures,
mais même,
à des Bulgares dans des conditions, en l'occurrence, souvent difficiles.
Même en faisant appel à de la main-d'œuvre étrangère, et en France, ils sont payés au tarif français, hein, c'est pas comme dans d'autres pays, même en faisant appel à de la main-d'œuvre étrangère, ça c'est parce qu'on n'arrive pas à trouver la disponibilité main-d'œuvre. On ne passe pas en termes de coûts. La sole cultivée en fraise a baissé de 29% en France, elle a augmenté de plus de 80% dans d'autres pays européens. Donc il est clair que quand on crée des conditions supra-supra qui créent des charges supplémentaires, eh bien on régresse. Un autre exemple, c'est dans la volaille.
Oui, mais je suis d'accord, Christelle Lambert, mais en même temps, on a l'impression que c'est toujours la responsabilité des autres. Il y a peut-être aussi une responsabilité des agriculteurs qui n'ont pas su se moderniser, qui n'ont pas su peut-être créer des aides d'exploitation un peu plus grandes. Ça, c'est plus dans l'élevage. Non, vous voyez, est-ce que... Alors, se moderniser,
nous avons
d'où votre pacte productif hein,
voilà.
Vous
alors, dans
place.
Le pacte productif, ce que nous proposons, c'est justement aussi de relancer l'investissement et d'améliorer, d'augmenter la part de l'agriculture dans le PIB Global France. L'âge moyen d'un poulailler en France, c'est 22 ans. L'âge moyen d'un pulvérisateur, pour utiliser les produits phytosanitaires, c'est 13 ans. Pourquoi n'y a-t-il pas eu d'investissement? Parce qu'il y a de faibles rentabilités. Et on revient là à la question cruciale du prix de vente de nos produits, de la guerre des prix qui a eu lieu en France et qui nous a contraints à avoir des faibles marges et donc à ne pas pouvoir moderniser et investir. Les pays qui investissent sont les pays qui ont créé la compétitivité. Donc nous souhaitons qu'on puisse libérer les énergies, qu'il ne faille pas 10 ans pour créer une réserve d'eau ou un méthaniseur, mais qu'on puisse accélérer, lever certaines lenteurs administratives qui pénalisent. Vous savez, les agriculteurs, ils ne demandent qu'une chose, à investir, à moderniser et à rester agriculteur, à intégrer le numérique pour être plus performant.
Est-ce que vous avez un peu l'impression aujourd'hui d'être un peu les pestiférés de cette transformation écologique et environnementale avec et cette opération Les Feux de la Colère où on voit les paysans qui mettent le feu pour montrer que pour protester, pour manifester leur colère.
Mais
vous
ça révèle
un peu les victimes de ça.
Ça révèle un très très gros malaise et je vois que hier les agriculteurs des Pays-Bas ont également manifesté avec 500 tracteurs et 1000 km de bouchons dans leur pays.
Vous êtes pointé du doigt quoi. Ouais.
Oui, mais c'est trop facile de pointer du doigt les agriculteurs. Les agriculteurs, il leur est demandé une équation impossible. Produisez plus et mieux avec moins d'impact, moins d'intrants, mais produisez moins cher. Mmh. Quand je vois des grands distributeurs aujourd'hui qui font une grosse pub en disant vous allez manger mieux et moins cher
tous,
chez nous.
Ils font tous ça.
Oui, mais certains le font plus que d'autres. Ils tirent les prix vers le bas. Comme ils ne peuvent plus le faire sur les produits de grandes marques, ils le font sur les produits à marque distributeur. Même produits à marque distributeur sont plus qualitatifs et en plus ils sont moins chers. Donc l'agriculture est enfermée dans une spirale de prix bas qui lui enlève sa compétitivité, qui lui enlève la capacité de s'adapter.
Oui, vous êtes en position de faiblesse. Vous êtes au bout de la chaîne.
On est au bout de la chaîne. Oui. Et ce matin, au colloque important où j'assistais, justement où étaient réunis tous les grands de la distribution et de l'industrie, les agriculteurs ont été les oubliés pendant longtemps. Donc les états généraux de l'alimentation visent à corriger le fait que les agriculteurs soient le maillon faible.
Quand on regarde bien, vous-même, vous l'avez plus ou moins dit, Christiane.
Il y a des résultats seulement dans le lait. C'est le seul produit qui a eu une augmentation. Plus 0,4, c'est pas beaucoup. Tous les autres produits ont baissé. C'est le seul produit où on est passé de contrat...
C'est un échec total.
On est passé de contrat de 1 an à des contrats à 5 ans. Ouais. Aujourd'hui, on veut construire les prix en marche avant, c'est-à-dire tenir compte des conditions franco-françaises de production. Tout industriel normal, quand il établit ses conditions générales de vente, il parle de ses coûts de matières premières, ses coûts de main-d'œuvre, ses coûts de recherche, etc. Et il dit, voilà, je dois vendre à temps pour équilibrer mes comptes. En France, c'était l'inverse. C'était le distributeur qui fixait le prix et qui disait à l'industriel, je te donne tant, tu te retournes vers ton producteur et il se débrouille. Donc ça, c'était les stalactites, hein, c'est-à-dire les prix qui tombent, le ruissellement qui n'a pas marché. Nous, on propose des stalagmites.
Ouais,
c'est-à-dire qu'on construit et on est en capacité.
C'est frappant. Alors, évidemment, je ne suis pas du tout une spécialiste comme vous, Christiane Lambert, mais on a quand même suivi ces états généraux de l'alimentation. Vous êtes venu nous voir. On a suivi la énième loi de modernisation de tout ce que vous voulez. Mais le résultat est toujours là. Ça ne change rien.
Alors, donc, ça change, je vous le dis, dans le secteur laitier, ça ne change pas assez dans les autres domaines. Mais il
ne
faut pas capituler. Oui, mais on était sur moins 15% sur les 5 dernières années. Ouais. C'est-à-dire qu'on était dans une destruction de valeur d'1 milliard d'euros par an. Là, on stoppe les moraux. Il faut repartir à la hausse. Donc il faut une stabilité, il faut continuer à utiliser tous les outils des états généraux de l'alimentation, l'encadrement des promotions, la construction du prix en marche avant, arrêter de vendre des prix à zéro marge, voire à perte, sans sanctionner les comportements abusifs. Et là, la DGCCRF joue son rôle. Monsieur Leclerc a été assigné à payer 117 millions d'euros parce qu'il avait triché. Monsieur Intermarché qui a dû avoir un règlement amiable à 380 000 euros parce qu'il a vendu du Nutella à moins 70%. pour ça, il y a enfin des vraies sanctions qui les dissuadent. Mais quand même, quand
on a l'impression que les mentalités des distributeurs n'ont pas bougé, n'ont pas changé.
Pas si. Tous. Moi, je ne les mets pas tous dans le même panier.
Alors,
un certain nombre d'entre eux, cherchent à faire des filières responsables et des démarches responsables.
Bah, si
c'est le cas de U, c'est le cas d'Auchan, essentiellement. C'est le cas de Lidl, mais que pour 10% de ses produits. Donc, il y a la com qui est faite autour, mais il y a quand même la réalité des volumes qui n'amènent pas du revenu pour tous les agriculteurs. Et il y a par contre ceux qui continuent à dire « Venez chez moi, je suis le moins cher ». Bon, bien sûr, le plus cavalier d'entre eux que chacun connaît, et que ce soit Leclerc ou Carrefour, les plus durs en Intermarché, les plus agressifs en promotion aujourd'hui. Donc, nous voulons qu'on poursuive sur ces états généraux avec les outils créés. C'était l'année 1. On n'avait pas tous les outils. Beaucoup avaient fait le pari que l'État ne tiendrait pas. Par contre, aujourd'hui, il faut que ça revienne vraiment aux agriculteurs. On ne peut pas être les oubliés des états généraux. Vous savez, ce matin, un observateur a dit le ruissellement, il s'est davantage fait dans les poches des avocats que dans les poches des agriculteurs. C'est révélateur. Donc, il y a tous ceux qui ont essayé de contourner et de tricher. La loi est là, elle doit s'appliquer dans toutes ses composantes. Et nous, agriculteurs, nous serons très vigilants pour qu'ils réussissent, ces états généraux.
Est-ce que, deux questions d'abord, le budget de l'agriculture, il est en légère progression, 4%. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que vous dites, bon, ça va dans le bon sens?
C'est jamais assez, parce qu'il y a un très très gros besoin de transition en agriculture aujourd'hui. Il faut accompagner les agriculteurs pour poursuivre la transition agroécologique. Elle est engagée. On veut aujourd'hui répondre aux attentes des consommateurs dans tous ces domaines. On veut aussi gagner notre vie, parce que parler de revenus, c'est aussi important. Ça permet d'attirer des jeunes vers nos métiers. On est en manque de jeunes pour s'installer, on est en manque de personnes pour travailler dans nos exploitations. Il faut pour ça qu'économiquement, ce soit plus valorisant. Donc, par contre, le ministère de l'Agriculture qui baisse le budget des chambres d'agriculture, ça nous ennuie, parce que c'est quand même la structure qui va conseiller les agriculteurs pour travailler mieux et faire cette transition agroécologique.
Il y a peut-être quand même besoin d'une modernisation dans ces chambres d'agriculture.
Bien sûr, il faut le faire, mais avec moins 15%, ça fait quand même beaucoup en termes de baisse.
Comme pour les chambres de commerce et d'industrie, en fait.
Oui, mais on a vu ce que ça a donné, et la différence, c'est que les chambres d'agriculture ont des instances très décentralisées, au plus près des agriculteurs, qui ne sont pas aussi mobiles qu'un chef d'entreprise, qui peut plus facilement se déplacer à la capitale régionale. Un agriculteur, il est plus ancré dans les territoires, il a moins de mobilité. Et donc, le conseil de proximité, même d'un bout à l'autre du département, on n'a pas la même agriculture. Donc, je pense qu'il faut concilier l'efficacité, je suis d'accord, il y a certainement des marges de progression, mais aussi la proximité pour les agriculteurs.
Est-ce que vous, à vous entendre, justement, on a le sentiment quand même que vous reconnaissez qu'aujourd'hui, vous êtes entendu de la part du ministre de l'Agriculture?
Pas assez. Notre agriculture brûle,
vous êtes dans votre rôle,
ailleurs, quand même. Écoutez, moi, il y a eu un rapport du Trésor en octobre 2018, qui a dit attention, l'agriculture est en train de perdre de vitesse.
Ah ben là, on a les chiffres.
Cette fois-ci, on devient importateur. Vous vous rendez compte, l'agriculture qui était
incroyable,
très exportatrice, tout secteur, du vin, des céréales, du fromage, des semences, tout produit. La gastronomie française reconnue, forte notoriété, alimentation la plus durable. Voilà, on a une pépite avec l'agriculture, mais on a aujourd'hui un acharnement thérapeutique d'un certain nombre de personnes qui voudraient qu'on fasse une transition en deux temps, trois mouvements, en trois ans. Pour l'automobile, M. Hulot a dit 2030, même 2040. Pour le nucléaire, il y a eu des délais donnés. Et pour l'agriculture, il faudrait qu'en trois ans, on change tout.
C'est par rapport au glyphosate, l'utilisation du glyphosate,
possible,
évidemment.
Mais
vous
pas que.
Ça.
C'est aussi dire, vous devez avancer plus vite et des contraintes supplémentaires tout le temps. Je vous assure, c'est quand même compliqué.
Mais en même temps, on voit, c'est compliqué, mais on est en vie dans une époque où il faut consommer bien, mieux. Enfin, on voit bien toute la pression, et tant mieux. Il faut que vous suiviez quelque part. Parce que je ne dis pas que ça soit facile.
Mais vous savez,
à ce moment-là, c'est un peu comme pour la viande, l'élevage que vous connaissez bien. Au sentiment, il y a eu des images qui ont eu un impact extrêmement négatif. Je sais que vous n'aimez pas qu'on aborde ce sujet, mais malgré tout, il existe dans les conditions d'abattage des bêtes. Mais on voit bien que on mange de moins en moins de viande parce que
le consommateur,
ça nous a impacté quand même.
Le consommateur est très exigeant aujourd'hui et nous le comprenons et nous sommes prêts à répondre. Mais moi, je vais vous donner des exemples de ce qui marche.
Ouais.
Dans matière animale, on a réussi en France, en l'espace de 5 ans, à baisser le recours aux antibiotiques dans nos élevages de 36%. Le ministre précédent, M. Le Foll, avait fixé un objectif de moins 25%. On l'a dépassé. On a fait moins 36%
en 5 ans. Quand vous voulez, vous pouvez.
Donc la transition, elle est en marche dans ces sujets. Idem sur le recyclage. Madame Brune Poirson parle beaucoup d'économie circulaire, parle beaucoup du zéro déchet. Le secteur agricole agricole est le secteur qui recycle le plus ses déchets plastiques, les contenants, tout ce qui est les produits d'emballage et même les produits, les emballages de médicaments, tout ça s'est recyclé à plus de 80% en agriculture. On est les champions maillot jaune du recyclage de ces produits-là. On peut citer d'autres exemples. On a amélioré l'efficacité de l'eau utilisée pour l'irrigation de 30%. Mmh. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait pousser plus.
Mais il y a urgence,
plus.
Vous êtes d'accord, Christine
Bien
Lambert,
sûr.
Il y a urgence.
Oui, mais ça ne peut pas se faire en claquant des doigts. C'est engagé depuis une vingtaine d'années. Il y a des résultats, mais les ONG qui militent, et c'est normal, parlent plus de ce qu'on ne fait pas que de ce qu'on fait. Donc à nous de parler de ce qu'on fait un peu plus. Merci de me permettre de le dire sur des réponses longues sans être coupée, parce que dans certaines émissions, c'est un petit peu plus compliqué.
Si on a plus
mais
de temps.
Je pourrais vous citer plein d'exemples aussi. Par exemple, dans le domaine de l'énergie pour les bâtiments d'élevage, on fait aujourd'hui des bâtiments à énergie positive, parce qu'on sait que le facteur énergie est un facteur très important. Mmh. Sur l'enjeu du changement climatique et du soja, qui a beaucoup alimenté la chronique cet été, la France est à 54% d'autonomie soja, autonomie protéinique, comme a dit M. Macron, l'Europe 30%, donc on est meilleur que les autres.
Donc vous faites des choses.
Parlons de ce qu'on fait bien.
Absolument. La réforme des retraites, c'est un impact pour les agriculteurs?
Oui, parce que passer de 42 régimes à un régime, c'est une simplification. Ouais. Et pour le secteur agricole, qui a les niveaux de retraite les plus bas du secteur, c'est 780 euros pour un homme et 480 euros pour une femme. Nous espérons qu'il y aura un mieux. Donc, 1 euro cotisé donne les mêmes droits, tant mieux. Parce que nous sommes sur un calcul à carrière complète. Quand certains sont sur les 6 derniers mois de carrière ou sur les 25 dernières années, il y avait une distorsion.
Ouais.
Par contre, ça règle le problème pour les retraités à venir. Ça ne règle pas pour nos retraités actuels qui sont sur des niveaux misérables et pour lesquels nous demandons une revalorisation.
Ouais. Et là, ce point de vue-là, vous ne l'avez pas pour l'instant?
Non, nous ne l'avons pas. Mais je sais que M. Macron est très sensibilisé à la question des retraites et de la misère de nos retraités agricoles. Mmh. Parce que quand on voit qu'aujourd'hui, dans les chiffres du suicide en agriculture dont beaucoup parlent, en 2015, plus de 60% des suicides en agriculture sont le fait d'agriculteurs de plus de 65 ans. Donc, retraités, inactifs, faible niveau de revenus,
isolé.
Sentiment d'inutilité, isolés, voilà.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Pacte productif, c'est très important, c'est ce que vous êtes en train de négocier et c'est peut-être l'avenir de l'agriculture française qui se joue.
Et nous le présenterons très prochainement au président de l'agriculture. Nous l'avons fait avec les industries agroalimentaires privées et les coopératives.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous. La présidente de la FNSEA, voilà, c'est la fin de l'orage. On se retrouve bien sûr demain à 8h15. Mon invité, ça sera Frédéric Oudéa. Lui, il est le patron des banquiers français. Il est aussi directeur général, bien sûr, de la Société Générale. Et on se retrouve dans l'orage 12h, 13h. D'ici là, très bonne journée. Journée.